L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Nous sommes le 17 novembre 2012. Le tonnerre gronde, la brume s'installe, le noir s'impose. Les nuages se veulent de plus en plus menaçants, la pluie est de plus en plus violente. Ah, il aurait dû écouter les mises en garde de son chef, ne pas se lancer aveuglément alors qu'il connaissait la menace réelle. Oui, maintenant c'est trop tard. Son acolyte le regarde, les lèvres tremblantes et les yeux déformés par la peur. Il décide de faire demi-tour, sauver sa peau tant qu'il est encore temps. Mais c'est peine perdue. Il le comprend rapidement. Le moteur montre ses derniers signes de vie avant de rendre l'âme, les laissant seuls avec leur désespoir. Il regarde activement autour de lui, prend sa radio et appelle son chef. « Nous sommes pris par la tempête, on a besoin d'aide !» Alors que son supérieur lui implore de communiquer ses coordonnées, il réalise que son GPS a pris l'eau. Il est désormais inutilisable. « Écoutez, on va venir vous chercher, hein, tenez !» Quelques grésillements, une voix saccadée et puis le silence. Lourd, bruyant. La radio s'est coupée, c'en est fini. Ils sont maintenant seuls, à bord de leur bateau de fortune, leur détresse criant par-dessus les nuages. Et la peur s'immisce. Il est 18h27. C'est l'heure H de notre récit. Nous sommes le 17 novembre 2012, dans la ville de Tonala, au sud du Mexique. La température est idéale, il fait 16 degrés en ce début d'après-midi. José Salvador Alvarenga, pêcheur salvadorien âgé de 36 ans, vient de passer quelques jours paisibles, parsemés d'allers-retours entre son bar favori et son lit quand l'alcool lui montait trop à la tête. Sa vie est rythmée ainsi. Il picole un peu, puis part à la pêche pour tenter de ramener ce qui lui permettra de financer ses prochaines sorties. Vie monotone, vie sans exaltation, sans rebondissement. Mais elle lui plaît. Il ne voudrait rien changer. Il n'y pense même pas, en réalité. Aujourd'hui, il ne part pas seul pêcher le requin. Ezequiel Cordoba, jeune Mexicain de 22 ans, l'accompagne. Alors qu'il s'apprête à quitter la côte, leur chef est en leur direction. Son visage est grave, ses rides sérieuses. Il les retient. Et les gars, on vient de recevoir la nouvelle. Un gros orage est en train de se former pas loin d'ici et il se rapproche de nous. Je partirai pas maintenant, moi, à votre place. C'est l'océan Pacifique ici, hein. Ça pardonne pas. Alvarenga n'est pas craintif. Il en a vu d'autres. Ça ne l'effraie pas. Il est persuadé que rien ne leur arrivera. Tout ira bien. Ils seront de retour dans 5 jours avec 500 kilos de poissons, comme prévu, comme d'habitude. Ils s'installent alors dans leur bateau rudimentaire, sans toit, sans rame, sans rampe, sans ancre. Il fait tout juste 7 mètres. Équipé d'un moteur vieillissant peu fiable, il contient seulement une grande glacière et du matériel de pêche. Le strict nécessaire, mais bien assez pour Alvarenga. Après tout, c'est juste une petite pêche. Une action du quotidien. Il l'a déjà fait 100 fois. Il est 15h. La barque s'élance dans la mer et s'éloigne petit à petit du port de Costa Azul. Le chant des oiseaux s'élève, le soleil brille, l'eau caresse la coque du bateau. Oh, de temps à autre, des gouttes viennent caresser le visage d'Alvarenga. Il se sent bien dans son petit vaisseau, c'est comme à la maison. Il fait doux, il fait chaud, c'est agréable. Les heures défilent, se suivent sans se ressembler. Les deux hommes travaillent. Ils sont chanceux aujourd'hui. La pêche est fructueuse. Les poissons défilent par centaines, ce qui les rend heureux. Ils se félicitent mutuellement lorsque l'autre fait une belle pioche et puis ils se chamaillent quand l'hameçon se révèle vide. C'est bon enfant. Un moment de complicité entre deux pêcheurs exerçant leur métier. Mais alors que rien n'était supposé embrumer cet après-midi sereine, au loin, des nuages se forment. Doucement, mais sûrement, le ciel s'assombrit. Les oiseaux suspendent leur chant et battent des ailes sauvagement. Il fonce vers la côte, comme s'il pressentait un danger imminent. L'atmosphère n'est plus parsemée du champ chromatique bleu, mais se rapproche plutôt du grisâtre. Puis se transforme en noir menaçant, un noir agressif, terrifiant. L'orage semble s'élancer droit sur eux. L'air est grave à présent. La pluie commence à s'abattre de plus en plus fort et le vent, qui paraissait jusque-là modéré, se renforce. Soudainement, violemment, brutalement, les rafales se multiplient. C'est la panique, le chaos. Le tonnerre retentit au loin. Ça les fait sursauter. Ils sont aux aguets. Les éclairs transpercent le ciel pour s'éclater dans la mer. Ils sentent la décharge électrique. Ils se regardent, figés par la peur, qui semble leur avoir ôté l'usage de la parole. Alvarenga prend alors conscience de la gravité de la situation. Il décide de faire marche arrière, demi-tour. Il coupe la corde, abandonne le reste de la pêche dans le filet et fonce en direction de la côte. Cordoba est en pleurs, complètement déboussolé. Le jeune pêcheur est inexpérimenté. Il n'a jamais connu ça. Il est épouvanté. Alvarenga n'a pas le temps de s'attarder à le consoler. Il faut agir vite, penser intelligemment. Un trou se forme dans les nuages. Au loin, des montagnes. Alors il est rassuré, il est confiant. On est à 25 km plus ou moins. On va y arriver. Mais le moteur commence à faire des ratés. Il broute. On sent qu'il s'affaiblit. Allez, tiens bon. Mais tiens bon, ramène-nous sur la côte. Soudain, l'appareil se coupe complètement. Le bateau s'immobilise. C'est la désillusion. Alors que faire ? Alvarenga cherche alors sa radio. La priorité est de prévenir son chef. Il saura quoi faire, il pourra les aider. Il tente de lui expliquer la menace, alors que tout ce qui l'entoure n'est que chaos. La conversation est hasardeuse. Le chef comprend que c'est dramatique. Il faut être stratégique, agir rapidement. Communique-moi tes coordonnées GPS, on va venir vous chercher. Ah non, c'est impossible. Le GPS n'est pas étanche et il a pris l'eau. Il est foutu. Tout est foutu. La voix du chef bourdonne à travers la radio. Ses mots ne veulent bientôt plus rien dire. Il n'entend plus que les consonnes qui résonnent à travers le tonnerre. Sa dernière phrase, pleine d'espoir et de promesses, reste en suspens. Alvarenga sait qu'il n'entendra pas la fin. La radio est morte, elle aussi. Alors que l'orage danse autour de lui, dans sa tête, tout n'est que silence. Il sait que ce n'est que le début d'un long périple. Son compagnon, lui aussi, se tait. Il a compris. Ils sont deux. Deux pêcheurs réunis par un même destin funèbre. Désormais, ils vont devoir se battre pour survivre. L'orage dura 5 jours. 5 jours de perturbations atmosphériques, d'averses violentes, d'éclairs foudroyants. Le déluge s'est amplifié. Les précipitations ont doublé. Les deux pêcheurs jettent leurs 500 kilos de poissons par-dessus bord pour pouvoir manœuvrer plus facilement. Quelle tristesse d'abandonner une si bonne pêche. Mais ils ne peuvent pas faire autrement. Cela pesait trop lourd. Stratégiquement, ils retournent l'immense glacière où séjournait leur butin pour s'y abriter. Ils se blottissent l'un contre l'autre, cherchant péniblement un peu de chaleur, restant malgré tout frigorifiés. La pluie abondante ne leur accorde jamais un moment de répit. La flotte recouvre la barque. Il faut sans cesse la vider. Ils se relaient donc pour écoper le bateau. C'est pénible. C'est sans fin. L'espoir s'amenuise alors que les heures passent. Ils sont seuls à affronter l'océan. Les forces de la nature semblent bien décidées à tester leurs limites, à déterminer leur résistance. Alors qu'ils n'espéraient plus qu'un rayon de soleil, une lueur apparaît dans le lointain, un éclat, une étincelle. Les nuages se dispersent, rebroussent enfin chemin pour laisser la place à la clarté tant souhaitée. C'est l'euphorie, l'exaltation, la jubilation. Mais plaisir de courte durée. Autour d'eux, la mer à 360 degrés. Ils ne sourient plus. La joie est retombée. C'est pas la joie en réalité. C'est plutôt le désenchantement. Mais où sont passées les montagnes? Le vide, le néant. Il n'y a plus que de l'eau partout. Rien d'autre que cette étendue bleue effrayante, cette foutue mer à perte de vue. Ouais, le courant a dû nous emmener au cœur de l'océan Pacifique. Cordoba est abattu. Ils sont seuls, sans eau, sans nourriture, au milieu de nulle part.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans l'heure H, je vous raconte l'histoire incroyable de José Salvador Alvarenga, pêcheur originaire du Salvador qui erre au milieu de l'océan Pacifique. À côté de lui, dans le bateau, se trouve son jeune acolyte, Ezequiel Cordoba, terrorisé. Les deux hommes ont des caractères radicalement opposés. Le jeune Cordoba est très anxieux, voire affolé. Il voit l'avenir d'un œil très pessimiste. Il est convaincu qu'ils ne survivront pas. Clame haut et fort qu'ils sont condamnés à mourir, seuls, avec comme seule compagnie cette mer immense, éternelle. Alvarenga, lui, ne part pas défaitiste. Il est encourageant. Malgré tout, il comprend l'angoisse du garçon juvénile. Il est conscient que les chances sont maigres. Mais il se veut réconfortant, prometteur. On va venir nous chercher. Les équipes de secours vont partir à notre recherche et nous sauver, t'inquiète pas. Il est persuadé de la véracité de ses propos. Il sait que des secours viendront à eux. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il n'y aura pas d'opération de secours. Les sauveteurs ont arrêté les recherches 2 jours après leur disparition, contraints par la violence extrême de l'orage. Partir à leur recherche serait une mission suicide. Il faut être raisonnable. Alors les autorités ont tout abandonné, avant même d'avoir réellement essayé. Mais c'est cet espoir d'être secouru, pourtant vain, qui va pousser Alvarenga à croire en l'avenir. Quelques jours plus tard, un premier avion les survole sans les apercevoir. Ils parviennent néanmoins aisément à lire son immatriculation en dessous de son aile. Quelle frustration! Mais Alvarenga reste fort. Pas question de s'abattre sur son sort. Il faut persévérer, relativiser. Il y en aura d'autres. Les probabilités sont élevées. Ils ne doivent pas être si éloignés des terres. Ils sont alors loin de se douter que ce n'est que le début d'un long et périlleux voyage. Ils adoptent quelques habitudes qui leur permettent de survivre. Alvarenga, n'ayant pas la possibilité d'utiliser leur matériel, ayant valsé dans la mer pendant la tempête, ils développent une technique de pêche très rudimentaire. Sa méthode est la suivante. Il s'allonge à plat ventre sur le bord du bateau et plonge ses mains dans l'eau. Il attend ensuite qu'un poisson passe. Cette étape est pénible, interminable, monotone. Lorsque par chance un poisson s'y faufile, il referme brusquement ses mains sur sa proie et enfonce ses ongles pointus, résultat de semaines sans manucure, dans la chair de l'animal pour le tuer. Retour à l'état sauvage. Il tend alors vers l'homme préhistorique qui n'a qu'un but, lutter pour sa survie. Il trouve également d'autres tactiques pour se nourrir, comme la chasse à la mouette. Lorsqu'un de ces oiseaux chanteurs se pose sur leur bateau, ils sautent dessus et se l'arrachent, fiers de leur coup. Les oiseaux de mer ne sont pas ce qu'il y a de plus plaisant à déguster, mais pour eux, c'est un plat royal. Il leur arrive aussi de s'alimenter de tortues ou d'engloutir des méduses. Ces dernières leur brûlent la gorge quand ils les mangent, mais la douleur est infime en comparaison à la faim qui les tiraille. On est capable de tout lorsqu'on est affamé. Un matin, ils aperçoivent un sachet plastique flottant sur les vagues. À l'intérieur, le gros lot, un banquet, des carottes, du chou, une brique de lait. La date, largement dépassée, mais quelle importance. Ils n'ont rien d'autre et c'est merveilleux. Ils se régalent, leurs papilles gustatives se délectent. Un heureux hasard, un coup de veine. Ils distinguent également un chewing-gum, dansant paisiblement sur la surface de l'eau. La chiclette devait nager depuis bien longtemps, contenir bien des bactéries, comporter bien des microbes. Mais pour Alvarenga et Cordoba, la gomme est une merveille, une richesse qu'il ne faut pas laisser s'échapper. Ils la découpent comme ils peuvent pour se la partager. Elle a perdu tout son goût et son élasticité, mais c'est un festin. Malheureusement, il ne suffit pas de se restaurer, il faut aussi s'abreuver. Et cela s'avère être beaucoup plus laborieux. En effet, nous sommes au 13e jour de dérive. Et il n'a pas plu une seule goutte. Ils sont déshydratés. Les seules manières qu'ils ont trouvées de se désaltérer sont de boire le sang des tortues ou d'écluser leur propre urine. Retour à l'état sauvage, comme je l'ai dit. À l'animal sauvage. La survie avant tout. Ils se sentent maigres, desséchés, sales. Alors, combien de temps devront-ils encore tenir? Est-il encore réaliste d'y croire? Quelques jours plus tard, alors que la perspective d'étancher leur soif diminuait, les deux hommes, réfugiés en dessous de la glacière pour profiter de son ombre réconfortante, entendent « ploc, ploc, ploc ». De plus en plus de ploc, de plus en plus puissant. De la pluie, enfin, de la flotte, de l'eau, une averse, une aubaine, le bonheur en quelque sorte. Ils se regardent, soulèvent brutalement la glacière au-dessus d'eux et poussent des cris de joie. De l'eau, Cordoba. De l'eau par milliers de litres. C'est l'ivresse des moments simples. Le régal d'un besoin vital enfin retrouvé. La béatitude. Vite. Il faut récupérer tout ce que l'on peut. Alvarenga ne crie pas victoire trop vite. La pluie peut s'évanouir à tout moment et ne ressurgir que dans quelques mois. Il faut être perspicace, penser stratégiquement et efficacement. Les jours précédents, il avait bricolé un système de récupération d'eau. Une méthode imparfaite, mais fonctionnelle. Ils avaient également ramassé une bouteille en plastique qui voguait sur la mer plate, pour leur plus grand bonheur. Ils consomment alors le liquide si précieux, de manière rationnelle, goutte par goutte, chacun à leur tour. C'est le Graal. Et qu'est-ce que ça fait du bien ? Une sensation inexplicable, inconcevable, inespérée. Ils revivent. Du moins, un peu. Pour lutter contre la solitude, ils se comptent leur vie respective. Ils racontent leur enfance, leurs moments de joie, leurs moments de doute. Ils réchauffent leur cœur en évoquant le quotidien de leurs proches, des êtres qui leur sont chers, des âmes qui leur manquent. La nostalgie les emprisonne. La mélancolie les rattrape. Ils s'interrogent parfois, rigolent peu, pleurent souvent. Il parle à Dieu régulièrement et implore son pardon. Cordoba et Alvarenga s'en veulent. Ils regrettent leur comportement lorsque la vie ressemblait encore à la vie, lorsque cette dernière avait encore un sens. La vie qu'ils ont si souvent bafouée. Je m'en veux d'avoir passé tellement de temps dans les bars à la place de prendre soin de ma mère. Elle m'a tout donné, elle a toujours tout fait pour moi. Et j'ai jamais pris soin d'elle. Alors Dieu, si tu m'entends, pardonne-moi. Alvarenga se lamente, déplore, crie son amertume. Il s'en veut cruellement d'avoir été mauvais fils, d'avoir favorisé la fête à la famille. Il prend maintenant conscience des incidences de ses actes, du malheur qu'il a engrangé, des plaisirs qu'il a loupés. Et il est désormais condamné à ressasser ses regrets et à compter ses remords. Un jour, ils décident de sceller une promesse sur leur barque. C'est l'idée de Cordoba. Le jeune pêcheur y pensait depuis longtemps. Il est temps d'en faire part à son compagnon de voyage. Alvarenga ? Ouais, quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'on peut faire une promesse mutuelle ? Ça me tient vraiment à cœur. Ouais, bien sûr, qu'est-ce que tu veux ? Pouvons-nous jurer que si l'un de nous meurt, l'autre ira rendre visite à sa famille pour lui livrer un message ? Je te le promets, Cordoba. Je te le promets. C'est ainsi que, les yeux dans les yeux, les mains dans les mains, cette déclaration solennelle fut pactée par les deux pêcheurs, avec comme seul témoin, la mer infinie. Au bout de 2 mois de dérive, le cadet commence à montrer les signes de démence. Une certaine confusion s'installe graduellement. Il confond les phrases, se perd dans la signification des mots. Il hallucine parfois, divague souvent. Alvarenga s'efforce de le rassurer et de se rassurer. « Allez, quelqu'un va nous trouver. On sera bientôt sauvés, Cordoba. Faut que tu gardes espoir. » Malheureusement, après 4 mois de déviation, 120 jours à regarder l'océan sans en apercevoir la fin, Cordoba ne tient plus. Il tombe malade après avoir ingurgité un oiseau de mer. Il arrête de s'alimenter. La folie s'empare de lui. Il ne dit plus que des absurdités, des sottises. Et alors que sa famine s'éternise, la mort l'emporte un soir de pleine lune. Le ciel alors se voit complété d'une nouvelle étoile. Elle scintille, fixe Alvarenga. Elle semble lui montrer le chemin, le guider vers la bonne voie. Astre lumineux, puissant. En mémoire du jeune pêcheur mexicain disparu trop tôt, disparu trop jeune.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans l'heure H, je vous raconte l'histoire incroyable de José Salvador Alvarenga, ce pêcheur originaire du Salvador qui erre au beau milieu de l'océan Pacifique depuis 2 mois et qui vient de perdre son compagnon d'infortune. Après la mort du jeune Cordoba, José Salvador Alvarenga se retrouve seul dans son malheureux bateau de fortune. Mais ce dernier est terrifié à l'idée de continuer en solitaire. Combien de temps lui reste-t-il à voguer au milieu de cette mer infinie ? Est-ce que quelqu'un viendra vraiment à sa rescousse un jour ? Il garde alors le cadavre de son acolyte défunt près de lui. Et tous les jours, il lui parle, lui confie ses angoisses, ses attentes. Il lui pose des questions, s'imagine des réponses. Et tous les matins, le même rituel. As-tu bien dormi ? Oh, moi, bof, j'ai fait beaucoup de cauchemars. Tu sais, c'est toujours le même qui revient. Ce mauvais rêve, il revient le hanter chaque nuit. Lorsque la nuit tombe, que ses yeux se ferment, il s'enracine dans son esprit. Il s'imagine ne plus jamais se réveiller et que son corps glisse, tombe et se retrouve au fin fond de l'océan. Là où l'eau est noire, là où personne ne pourra jamais venir le retrouver. C'est son karma, c'est son destin. Condamné à mourir seul, triste, abandonné de tous, englouti par les monstres marins. Alvarenga pleure, éclate en sanglots. Il se dit qu'il devient fou lui aussi, qu'il perd la tête, son cerveau déraille. Il ne peut plus continuer de la sorte. Il ne peut plus garder le corps de son compagnon décédé. C'est insensé. Et subitement, comme si la démence lui avait ôté l'odorat, ses sens lui reviennent. L'odeur nauséabonde, l'odeur de la mort, l'odeur d'un corps humain qui pourrit. Il déglutit amèrement, s'accrochant au bord de son bateau pour ne pas vomir son dernier repas. Alors, avec le peu de force qui lui reste, il place ses bras décharnés en dessous du corps sans vie de son ami et le soulève. Il parvient tant bien que mal à le balancer par-dessus bord. Il observe ensuite s'enfoncer lentement dans les ténèbres. Lui qui était encore tellement proche, il y a quelques secondes, n'est plus qu'une petite boule fuyant vers le centre de la Terre. La gravité l'a rattrapé, l'a emporté, loin de lui, loin de tout. Alvarenga est malheureux. Perdre son acolyte est très difficile pour lui. Cordoba aurait dû survivre. Ce sort ne lui était pas destiné. Il avait encore une longue vie devant lui, de nombreuses choses à découvrir. Alors il s'en veut. Il se sent coupable. Si son compagnon est décédé, c'est par sa faute. Il n'a pas su s'en occuper. Il n'a pas réussi à le préserver. C'était pourtant son rôle en tant qu'aîné. Alvarenga savait qu'il était plus faible, plus fragile, qu'il avait besoin de plus de réconfort, de plus de ravitaillement. S'il se retrouve dans cette situation funeste aujourd'hui, c'est à cause de lui, à cause de lui-même. Il n'y a que lui qu'il peut blâmer, et l'orage, ce foutu orage, cet orage qui a bousillé sa vie et qui a enlevé celle de son collègue, de son ami. Il se remémore alors la promesse faite à ce dernier et qu'il a juré de respecter. Lorsqu'il sera sauvé, il retrouvera la famille de Cordoba et leur transmettra son message. C'est là le moins qu'on puisse faire pour honorer sa mémoire et pour que ses proches sachent à quel point il s'est battu contre la mort. C'était courageux tout de même. Il s'est accroché. Il le voyait dans ses yeux, cette détermination à gagner la bataille, luttant contre l'envie de tout abandonner. Il craignait tellement la mort. Après tout, pour qui n'est-ce pas le cas? S'éteindre, disparaître à tout jamais, c'est effrayant. Alvarenga, lui, ne la craint plus. Plus maintenant, en tout cas. Avant, mourir le terrifiait, sûrement. Il ne s'en souvient plus. Aujourd'hui, c'est une évidence. La mort est la seule voie possible, le seul chemin qui lui reste à parcourir. Il n'y a plus d'autre issue, et ça lui convient. Ses rêves ont disparu. Il n'espère plus rien d'autre. Il ne veut plus croire à cette conviction vaine et stupide qu'on viendra le sauver. Il n'y a personne, il n'y aura personne, tout le monde s'en fout. La vie a repris son cours. Les gens ont oublié. Ils sont retournés à leur activité, à leur petit quotidien, où il n'a désormais plus sa place. Mais avait-il une place? Il doute à présent. Il s'imagine ce que sa famille est en train de faire. Sont-ils en train de penser à lui? Il conçoit le futur de ses proches, qu'il ne connaîtra jamais. Alvarenga pense beaucoup au suicide. Se donner la mort l'obsède. Il ne réfléchit qu'à ça. La mort, seule voie envisageable, comme je l'ai dit. Il y a une chose qu'il retient de sauter le pas, de s'enlever la vie. Une phrase de sa mère, qui tourne en boucle dans sa tête, qui ne veut pas le quitter, comme pour lui donner une raison de continuer à se battre, pour l'empêcher de commettre l'irrémédiable. Les gens qui se suicident ne vont pas au paradis, disait-elle. Et ça c'est terrifiant pour Alvarenga. Il veut connaître le paradis, c'est sa destinée. Il vient d'une famille catholique, il croit en Dieu. Le paradis, c'est tout ce à quoi on peut espérer au moment de notre mort. L'endroit de la paix, de la plénitude, de la vie éternelle. L'idée de passer à côté de ça l'épouvante. Il ne peut pas prendre le risque, c'est trop important. Alors il attend. Il attend que la mort vienne à lui. Il attend qu'elle vienne gentiment lui fermer les yeux pour l'emmener au pays des anges, où tout est beau, où tout est serein. Il n'y a plus de problème, plus besoin de survivre, de continuer à résister inutilement. Il se laisse guider par les courants, par la brise légère, par le vent marin. Pourtant, un jour sur deux, il oscille avec l'envie de continuer à se battre. Cet antagonisme devient sa routine. Alors, un jour sur deux, il est plein d'espoir. Pour affronter l'ennui, il s'invente une vie. Il s'imagine sur un bateau de luxe, entouré de femmes toutes plus belles les unes que les autres. Son argent coule à flot, il ne sait qu'en faire. Il possède une magnifique villa sur une île privée qu'il a entièrement achetée, car sa fortune est infinie. Il a des servantes à ne plus savoir qu'en faire. Les filles se battent pour lui. Se chamaille comme des lionnes pour apparaître à ses côtés. Tout le monde veut sa place, tout le monde le jalouse. Oh, il n'a pas besoin de travailler, il a assez d'argent pour vivre trois vies. Il offre à sa famille des cadeaux par centaines, par milliers. Il leur construit des maisons somptueuses, il est richissime. Sa vie est magnifique, son bonheur indescriptible. Aucun problème en perspective, aucun souci n'entrave son quotidien. Son bateau de pêcheur n'a jamais existé. Il est sur un yacht de luxe, un navire doré qui vaut des millions. Il possède 5 moteurs, des dizaines de cuisinières qui lui préparent des plats gastronomiques matin, midi et soir. Oh, mais il n'a même plus faim. Son ventre ne gargouille même plus. Il est rassasié. Sentiment inespéré. Toute la journée, Alvarenga marche sur sa barque. Il tourne en rond en s'imaginant parcourir la muraille de Chine, grimper l'Himalaya, gambader sur les plages de Californie. Il chante, il danse, il s'imagine tous les métiers du monde, se met dans la peau de toutes les stars qu'il idolâtre. Il tente de faire du sport, de se faire des muscles alors qu'il n'a plus que la peau sur les os. Il est frêle, prêt à se casser en deux au moindre faux mouvement. L'énergie lui manque. Sa tête tourne sans cesse. Il a fait assez d'entraînement physique pour aujourd'hui. Son endurance en a pris un coup. Il n'ose pas imaginer à quoi il ressemble. Il doit être si laid, si repoussant. Sa barbe est tellement touffue. Elle lui gratte à s'en mordre les doigts. Elle ne doit sûrement pas sentir la rose, mais qu'importe. Son odorat s'effiloche petit à petit. Et puis, il n'y a personne à séduire sur ce petit bateau de 7 mètres de long. Pour garder une certaine notion du temps, il compte les phases de la lune. C'est son grand-père qui le lui a appris. « Mon garçon, tu dois savoir qu'un cycle de lune équivaut à 29 jours environ. Tu dois t'en souvenir, c'est important. Je suis sûr que ça t'aidera un jour où tu seras perdu, où tu te sentiras seul. À ce moment-là, il te suffira de regarder le ciel pour reprendre le dessus sur la réalité. » Alors Alvarenga suit les conseils de son aïeul. Il compte les cycles et les voit défiler les uns après les autres. Il remercie son grand-père pour sa sagesse, pour son conseil clairvoyant. Mais constater le temps qui passe, c'est aussi se rendre compte que personne n'est encore venu depuis si longtemps. Et que, même si pour lui les minutes ressemblent à des heures et les heures à des jours, le temps file en réalité. Pour tout le monde, pour la vraie vie, pour les autres. Ça fait tellement de jours qu'il est seul que ça lui donne la nausée. Mais il continue de compter. Le plus dur, c'est quand il voit passer au loin de gigantesques bateaux qui font 30 fois la taille de sa barque ridicule. Et il n'a aucun moyen de se signaler, aucun moyen de se faire remarquer. Il est condamné à les regarder s'en aller, lentement, comme si le monde le narguait, se foutait de lui. Rigoler de son sort. Il ne pleure même plus. Il sait que ça ne sert à rien de s'agiter, de lever stupidement les bras. On ne le verra pas. Il n'est qu'une minuscule tache au milieu de cette mer immense, de cette flotte démesurée. Au cours de son périple, il envoie une vingtaine des cargos. Ils font du bruit, créent des grosses vagues qui, parfois, font gigoter son petit bateau de 7 mètres tellement fort qu'il doit s'accrocher. Il les insulte alors. Il hurle les jurons les plus grossiers qu'il connaît. Il n'a pas peur des discours, toi. Personne ne l'entendra de toute façon. Bande de petits méchants capitaines sur vos gros bateaux moches. Évidemment, c'est pas ce qu'il dit. Ses mots sont beaucoup plus insolents, beaucoup plus percutants, beaucoup moins jolis. Mais on va épargner les âmes sensibles ici et rester sur un langage plus ou moins respectueux. Quel triste sort. On pourrait presque croire que c'est un banni, chassé par les autres à cause de ses mauvais actes et assigné à rester isolé, esselé, orphelin. Les oiseaux de mer ne s'approchent même plus de sa barque. Ils restent loin, là où il peut à peine les observer. Il ne sait pas si c'est parce que son odeur corporelle est trop forte ou si c'est parce qu'ils ont compris qu'il allait essayer de les abattre pour les engloutir par la suite. De toute façon, il n'a même plus assez de vigueur et de force pour les tuer. « Venez, petits oiseaux, venez, je ne vous ferai pas de mal. » À présent, il souhaite juste un peu de compagnie, un peu de réconfort, une source de vie. Nous sommes à la 15e phase lunaire, soit plus de 14 mois de dérive. Dit autrement, plus d'un an passé seul sur son bateau de fortune. Mais alors que son découragement ne pouvait être plus vivace, au loin, quelque chose apparaît. Un paysage différent de celui auquel il était tellement habitué. Ce n'est pas qu'une immense étendue bleue qui s'étend devant lui. Non, il y a des éléments nouveaux. Un cadre qu'il n'attendait plus, qu'il n'espérait plus. Des oiseaux de terre volent au loin, en harmonie, en cadence. Ah, ils sont beaux. Ils sont heureux. Ils chantent. L'appelle-t-il ? Il l'espère atrocement. Soudain, une île à la pointe de l'horizon. Une île magnifique, comme dans les films. Alvarenga a envie de hurler, mais stop ! Faut pas se réjouir trop vite. C'est sûrement une hallucination. Ça peut pas être vrai, c'est trop beau. C'est sûrement sa folie qui le prend à nouveau, qui lui fait tourner la tête. Il ne peut pas crier victoire, pas si tôt, pas si vite, pas si fort. Il se frotte les yeux, se pince les joues, se frappe le corps, se cogne la tête. Non mais est-ce réel ? Cet environnement existe-t-il vraiment ? Eh ben oui, c'est pas une illusion, c'est pas un fantasme, c'est pas une utopie. C'est une véritable île qui se dresse devant lui, un chef-d'œuvre, une merveille. Il est béat, il n'y croit pas. Ses yeux se couvrent de larmes, c'est sa chance. Il ne peut pas la laisser passer, il ne peut pas la laisser s'échapper. Mais tout peut arriver. Les forces de la nature sont plus puissantes que lui. Sa barque peut dériver sans jamais s'approcher. Les courants peuvent l'éloigner rapidement, sans qu'il ne puisse lutter. Ne pas jubiler, Alvarenga, la probabilité est infime. Et pourtant, une heure plus tard, par miracle, son bateau n'est plus qu'à une dizaine de mètres de la côte. Une dizaine de mètres de la liberté, de la résurrection. Son visage s'émerveille, ses yeux pétillent, son cerveau explose. C'était inespéré. Il va être sauvé, il va vivre. Il se jette à l'eau, abandonne précipitamment son bateau de fortune et nage comme un fou. Il se bat avec ardeur, avec passion. Mais il est faible et son corps est épuisé. Il n'a plus un centimètre de graisse, plus une once d'énergie, mais il donne tout. Il sait que ses efforts sont nécessaires, qu'il se rapproche du but. C'est le dernier acharnement qu'il aura à fournir pour survivre. Il balance ses bras dans tous les sens, agite ses jambes contre le courant féroce, boit la tasse plusieurs fois. Puis soudainement, comme si la mer avait entendu sa détresse, sentit son appel à l'aide, comprit son ultime combat, une vague vient le soulever pour le jeter sur le sable, sur la plage, sur la terre ferme. Ah, le sable contre son visage, si doux, il le sent. Il le serre férocement. C'est comme un trésor, une fortune extraordinaire. Il l'empoigne comme pour ne plus jamais s'en séparer, comme pour s'en imprégner. Il rampe lentement vers les terres. Il sait qu'il avance à l'allure d'une tortue et que son temps est compté, que son énergie sera bientôt épuisée. Mais il ne lâche pas, il est vaillant. Héros intrépide et téméraire, il veut qu'on se souvienne de lui de la sorte. Il continue sa bataille, aplati sur le sol. Il parvient à atteindre des champs. Ah, c'est herbe ! Mais qu'elle est douce, qu'elle est agréable ! Son odeur ? Mais il l'avait oubliée. Il revit. Ses sens sont décuplés. Il ne sait plus où donner de la tête. Il persévère et se retrouve finalement dans le jardin d'une habitation. Il aboie faiblement cette phrase qu'il n'aurait jamais pensé beugler un jour. « Aidez-moi ! Aidez-moi, je suis là ! Je suis là, aidez-moi !» Puis, le néant, le vide, le noir. Alvarenga se trouve alors sur les îles Marshall, en Océanie, à 11 000 kilomètres de son point de départ. Fort heureusement, pour notre pêcheur, il parvient, avant de s'évanouir, à se traîner non loin d'une demeure et réussit à se faire entendre par ses habitants. Affolé par son état, ces derniers le portent jusque chez eux et appellent les autorités. Alvarenga est sain et sauf. Il va retrouver sa famille plus de 14 mois après sa disparition. Tenez-vous bien, 438 jours de dérive. Un exploit, un miracle, un survivant, un héros. Et je terminerai cette histoire extraordinaire en vous rassurant. Alvarenga honorera bien sa promesse. Une fois rétabli, il se rendit dans la famille de Cordoba pour lui remettre son message et pour qu'à jamais, on se souvienne de lui. Voilà pour ce récit que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Camille Terlinden.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.